Bonjour Florent, bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour.
Donc merci beaucoup d'avoir accepté ce petit entretien. Alors les gens qui assistent au chapiteau scientifique ou à la zone préhistoire de la fête de l'Utouvrière vous connaissent, puisque Florent, tu étais venu l'année dernière nous parler de tes dernières découvertes. Et puis Antoine, bah, tu es un petit peu un familier de la zone préhistoire, hein, je crois. Donc, tu es venu plusieurs fois raconter des tas de choses passionnantes sur nos ancêtres, parce que vous êtes tous les deux donc des paléo-anthropologues. Alors, ce mot un peu compliqué, ça veut dire en fait que vous étudiez nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-tantes, nos arrière-grands-oncles, hein, donc les remonter à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années pour étudier nos ancêtres. Et vous travaillez donc tous les deux au Muséum d'histoire naturelle. Donc, je crois que vous êtes attaché au Musée de l'Homme, hein, c'est ça?
C'est ça, oui.
En ce moment, on travaille de chez nous, mais
Oui.
la plupart du temps, on est au muséum.
Des paléologues, paléo-anthropologues confinés. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure à la fin sur votre métier aujourd'hui. Alors, pour dire quelques détails peut-être supplémentaires, donc Florent, donc toi, ça fait plus de 20 ans, si j'ai bien compris, que tu arpentes l'Asie du Sud-Est.
Oui, c'est ça, oui. Dit comme ça fait oui, 20 ans, ouais, c'est. Mais c'est vrai que c'est à peu près ça, oui. En tout cas, par rapport au début de ma thèse, oui, ça fait 20 ans, ouais, un peu plus même. Et particulièrement, oui, sur l'Asie du Sud-Est, les îles indonésiennes et philippines. Alors, au départ, vraiment sur Homo sapiens, sur notre espèce à nous, comprendre les premières arrivées d'Homo sapiens dans la zone, et puis les évolutions, les migrations du continent aux îles, et puis entre les îles. Et puis, année après année, il s'est trouvé que on pensait travailler sur des fossiles qui appartenaient à Homo sapiens aux Philippines et puis qui s'avèrent appartenir à une nouvelle espèce, Homo lucenensis, donc on a décrit et que j'étais venu présenter l'année dernière à la fête.
Voilà, alors, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Donc, effectivement, une découverte qui a fait beaucoup de bruit quand même. L'espèce humaine, c'est pareil. Pardon. Et donc, Antoine, toi, tu es spécialiste de ce qu'on a dans le crâne. Alors, tu te contentes pas de contempler les crânes de nos ancêtres, mais tu essaies de voir dedans, à l'intérieur, quoi.
Ouais, l'idée, c'est d'utiliser des techniques d'imagerie. Et maintenant, on a des méthodes très performantes qui nous permettent d'avoir une qualité largement supérieure à ce qu'on peut voir avec de l'imagerie médicale. Donc, on arrive à voir des détails de vraiment très petites dimensions. Et donc, l'idée, c'est de regarder ça à l'intérieur des fossiles. Et puis, évidemment, puisqu'on regarde des choses qu'on ne connaissait pas auparavant, un fossile, c'est un objet physique qu'on touche, qu'on décrit, qu'on mesure, mais qui est très fragile, on en prend soin. Donc, auparavant, on se limitait à une description de l'extérieur, on prenait des mesures avec des outils qui permettaient d'avoir la taille d'ensemble. Et maintenant, grâce à ces méthodes d'imagerie, ben, on peut découper virtuellement dans tous les sens ce spécimen, aller voir le moindre petit détail à l'intérieur, toutes les petites choses cachées dans les fossiles, et ça multiplie le nombre de caractères anatomiques qu'on peut voir. Et ce qui fait que ça me lance un peu dans une course sans fin. D'aller regarder un bout de crâne, voir un truc, regarder une autre espèce, voir une autre morphologie et continuer comme ça sur d'autres caractéristiques anatomiques, dont la forme du cerveau qu'on arrive à voir conservée à l'intérieur du crâne. Et comme ça, on peut comparer sur plein de spécimens fossiles.
Alors, tu vas nous raconter ça aussi. Alors, peut-être on peut déjà refaire l'image un petit peu générale, hein, de d'où venons-nous finalement? Peut-être, je ne sais pas qui veut se lancer. Laurent, ouais.
Bon, ben je me lance et puis je passerai la main à Antoine en cours de route. D'où on vient? Ben on vient d'Afrique, ça c'est sûr et certain. Si on remonte aux plus vieux ancêtres, aux plus vieux fossiles qui sont identifiés comme appartenant potentiellement à nos ancêtres, ça tourne aux alentours de 6 à 7 millions d'années, donc en Afrique. Principalement en Afrique de l'Est, mais aussi au Tchad, avec la découverte de Toumaï par Michel Brunet et son équipe. Alors pourquoi on dit les plus vieux fossiles qui probablement correspondent à nos plus vieux ancêtres? Parce qu'ils présentent quelques caractères liés à une capacité très particulière qui est celle de la bipédie. Donc marcher debout sur nos deux pieds comme on le fait nous. On ne se déplace que comme ça. Et on est à peu près, alors évidemment, on va dire les oiseaux sont aussi des bipèdes, mais on est à peu près les seuls à vraiment pratiquer la bipédie exclusive. Et partant du constat que c'est un caractère vraiment unique à notre espèce Homo sapiens, on se dit que ça doit être aussi un caractère particulier de notre famille hominidée, où souvent maintenant on parle de la tribu hominine. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui on va peut-être souvent dire hominine avec Antoine. Hominine, ça veut dire finalement la ligne humaine, tous les ancêtres plus Homo sapiens qui sont des bipèdes, on va dire, pour faire simple, ou en tout cas qui ont des aptitudes à la bipédie. Donc cette histoire elle est africaine depuis au moins 7 millions d'années, et elle va être africaine uniquement pendant très très longtemps, puisque l'origine de notre genre, Homo, le genre auquel on appartient, on est des Homo sapiens, cette origine du genre Homo, elle est aussi africaine. Alors après, vers 2 à 3 millions d'années, il y a énormément de discussions sur comment on définit un homme, quelqu'un qui appartient au genre homo, au sens appartenir au genre homo, hein. Ça fait l'objet de nombreux débats depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est très facile. On voit facilement la différence entre un homo sapiens et un chimpanzé. Par contre, par le passé, si on inclut tous les ancêtres qu'on connaît maintenant, à partir de tous les fossiles qui ont été découverts, en particulier donc en Afrique, on se rend compte que c'est très très compliqué de définir, ou en tout cas d'identifier des caractères qui permettent de dire « Ah, ça y est, à partir de 3 millions d'années ou 2,7 millions d'années, on a les premiers fossiles qui correspondent au genre homo. » Alors, un des caractères, je vais peut-être passer la main à Antoine, justement, qui est utilisé depuis très très longtemps, c'est la taille du cerveau.
Très bien. Oui. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est qu'on se rend compte que c'est une histoire qui est complexe, qui est multiple. Et on a souvent l'idée que les choses sont simples, que l'évolution, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure, et donc on va pouvoir voir des différences. Et autant ça peut être vrai à une très, très large échelle, quand on compare des groupes qui sont très éloignés l'un de l'autre, comme l'homme d'aujourd'hui et le chimpanzé. Finalement, on a un ancêtre commun il y a plus de 10 millions d'années. Donc forcément, si on part chacun d'un côté pendant 10 millions d'années, au bout d'un moment, on se ressemble plus trop.
Juste une petite question. Le chimpanzé, donc, c'est notre plus proche cousin dans les espèces qui existent aujourd'hui, hein, c'est ça, tu confirmes?
Oui.
D'accord.
Oui, c'est le plus proche. Alors proche, ça veut dire que on a évolué chacun de son côté pendant un moment. Donc ça veut dire que lui s'est transformé, que nous nous sommes transformés de notre côté, mais que si on remontait l'arbre biologique, l'arbre de l'évolution, ce serait celui qui est le plus proche de nous. On partage un ancêtre commun très différent de nous deux, hein, il y a une douzaine de millions d'années. Et donc ça, c'est une échelle de temps qui est longue, hein, ça représente 12 et 12, hein, la séparation en gros. On est très loin. Et plus on va se rapprocher dans le temps, plus on va essayer d'étudier des groupes qui sont les uns à côté des autres dans ce buisson de l'humanité, bah, plus il va être difficile d'établir des différences. Donc, il y a des moments où on choisit des caractères qui vont nous permettre de constater des vraies différences. La bipédie, c'est le premier critère qui permet de définir l'humanité. Avant, par ailleurs, on trouve des primates quadrupèdes avec des mobilités très différentes. Et puis, depuis à peu près 7 millions d'années, on a un grand groupe avec des primates qui ont une anatomie qui montre qu'ils ont une adaptation plus marquée, plus fréquente à la bipédie. Mais pourtant, une grande diversité dans tout ça. Les premiers sont différents, les australopithèques eux-mêmes ont une grande variabilité, le genre homo aussi, et c'est vrai qu'on va essayer de trouver différents caractères, entre autres la forme ou la taille du cerveau. Et là encore, c'est pas aussi simple que ça. La taille du cerveau, on a cette idée que l'homme d'aujourd'hui est celui qui a le plus gros cerveau. Si on compare avec un chimpanzé qui a un cerveau 4 fois plus petit, on se dit que les ancêtres, c'était encore plus petit et ça n'a fait qu'augmenter au cours du temps. Il y a une partie qui est vraie, ça a augmenté, il y a eu des paliers, une augmentation, on est parti de valeurs assez basses. Les plus vieux qu'on connaît, c'est à peu près de la taille d'un chimpanzé, peut-être un petit peu moins. Et puis des moments où ça a augmenté de manière plus importante que d'autres. Des australopithèques, il y a une diversité, mais pourtant un cerveau qui reste assez petit. Et finalement, un moment de changement important, c'est l'apparition d'Homo erectus, ou des hommes qui lui ressemblent, qui correspond à un changement biologique. On passe d'hommes qui ont des corps avec des petites jambes et des grands bras, peut-être une adaptation au fait de se déplacer plus dans les arbres, à un mode de vie sur des zones plus réduites, des comportements un peu différents d'Homo erectus, qui est donc un bonhomme un peu bâti comme nous, avec des grandes jambes, des petits bras. Et puis, il se trouve qu'Homo erectus, ou ses contemporains, c'est le premier homme à aussi sortir d'Afrique, à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. On passe de petits groupes qui vivaient dans les différentes régions d'Afrique à une humanité qui va être sur des milliers et des milliers de kilomètres et sur plusieurs continents, avec un corps différent, avec un cerveau plus gros aussi de tous ceux d'avant. Et c'est un changement vraiment marquant de l'histoire de l'humanité.
Alors, c'est à quel moment, à peu près, cette sortie d'Afrique, en fait, qui a cet homme qui a commencé à coloniser, enfin, j'aime pas le mot coloniser, mais enfin, à se répandre un petit peu dans le monde entier, quoi.
Il y a deux aspects à voir dans ça, avant de répondre à la question. C'est que, en paléontologie, on trouve jamais le premier. On trouve un ancien qui est celui qu'on identifie comme le premier à être sorti jusqu'au prochain qu'on va trouver. Mais en fait, quand on trouve un fossile, ça montre l'existence, la présence de ces hommes-là, et que ça peut être avant, que ça peut être après. Ce qu'il faut saisir, c'est que justement, quand on trouve un seul fossile et qu'on parle du premier, du dernier, de l'apparition, de la disparition, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que c'est basé sur une présence, et que quand il y a absence de quelque chose, c'est pas la certitude qu'il n'y en avait pas. Donc, on n'a jamais la certitude d'avoir le premier ou le dernier. Et puis, l'autre limite aussi, c'est qu'on pense souvent aux choses de manière très linéaire. On imagine qu'il y a eu une sortie d'Afrique. C'est certain, les gars, ils se sont pas dit un jour, on va tous traverser, on va sortir du continent, on en a marre, allons voir ailleurs. En fait, ça s'est fait probablement au cours du temps par expansion de la zone de vie d'hommes qui sont allés au-delà d'Afrique, mais qui veut dire expansion de zone de vie, ça veut dire qu'il y a des mouvements dans tous les sens qui sont encore possibles. C'est pas un trajet dans un seul sens sans retour possible, c'est juste que l'homme vit sur une extension plus grande. Donc, pour répondre à la question de départ, c'est à peu près il y a 2 millions, à peu près à quelques dizaines ou centaines de milliers d'années près.
Mais ça traduit quand même une maîtrise plus grande. Enfin, je ne sais pas si c'est lié à la capacité d'avoir des habits, enfin d'avoir des chasses peut-être plus variées qui permettent quand même de s'adapter à des milieux quand même du coup très différents en termes de climat et tout ça quand même. Non ?
Eh ben, on rentre à nouveau dans une partie qui est compliquée en science. C'est ce qu'on interprète et ce qu'on suppose. On a des données archéologiques, c'est-à-dire des bouts d'os, parfois des bouts de pierre, des outils qui permettent d'extrapoler des comportements. Mais déjà là, ça reste assez limité. On a juste quelques déchets qui vont nous permettre de dire « il travaillait comme ça, il faisait ça ». Et après, il y a la partie supposition qui est à quoi ça leur servait, comment ils l'utilisaient, comment ils chassaient, comment ils vivaient. Et c'est vrai que c'est la limite qui est complexe. Et typiquement, pour Homo, pour cette grande période du temps, on est dans un moment où clairement on observe que l'outillage devient plus complexe, plus tard il y aura le feu, il y a probablement une alimentation qui se diversifie, mais on est dans un raisonnement aussi circulaire qui est de dire, puisqu'on a des hommes plus grands, plus intelligents, c'est aussi parce qu'ils sont plus intelligents qu'ils mangent plus de viande, parce qu'ils ont plus de viande qu'ils deviennent plus intelligents, et c'est très difficile d'arriver à démêler ce qui est vrai ou pas, juste à partir des données archéologiques.
En tout cas, si je peux rajouter une chose là-dessus, c'est tout à fait ça, mais il y a quelque chose qui est intéressant à partir de ces premières sorties d'Afrique, c'est que, on va dire, pour simplifier, mais à peine, tant que l'homme vivait en Afrique équatoriale, le climat plutôt chaud, plus ou moins humide, et surtout les durées de jours, en gros le soleil se lève à 6 heures et il se couche à 6 heures, c'est toujours la même chose. L'homme va sortir d'Afrique et il va probablement, d'après ce qu'on connaît, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a des sites anciens que ce sont forcément les premiers les plus anciens, il a plutôt continué sa progression en Asie le long de cette bande équatoriale, donc dans des non seulement des climats, mais aussi des temps d'ensoleillement dans les journées, à peu près équivalents. Et puis ensuite, une des choses qui est super intéressante, c'est que il va aller plus au nord et plus au sud, alors surtout plus au nord dans un premier temps. Et là, non seulement il va être confronté à des environnements beaucoup plus tempérés, beaucoup plus froids, avec une saisonnalité, et une saisonnalité aussi dans les ensoleillements. Et ça, par rapport à la chasse, par exemple, c'est tout bête, hein, mais quand les journées sont très courtes et qu'il fait froid en plus, c'est un vrai challenge au niveau culturel, en tout cas, parce qu'au niveau biologique, on est à peu près adapté à pas grand chose, hein. On a un corps qui est à peu près lambda. Par contre, c'est arriver à suppléer ça par nos capacités culturelles, on va dire, en tout cas culture matérielle, qui va permettre à l'homme de s'affranchir de contraintes, en particulier environnementales au sens large, hein, c'est-à-dire l'environnement, le climat, la faune et la flore pour la nourriture, va arriver à s'affranchir de ça et va réussir à s'acclimater et à s'installer dans des zones très très nouvelles. Et alors ça, probablement, c'est ce que disait Antoine avant, hein, faire un peu boule de neige. C'est un peu comme pour l'alimentation carnée, on ne sait pas, et où l'œuf et la poule, on ne sait pas qui est là en premier, mais petit à petit, en tout cas, il y a un processus qui fait que l'homme, s'aventurant de plus en plus loin dans des environnements différents, va arriver à s'acclimater très bien à des nouveaux espaces et continuer comme ça de plus en plus sa conquête des différents environnements terrestres. Mais encore une fois, c'est loin d'être un processus linéaire et ça prend surtout des dizaines, des centaines de milliers d'années, tous ces processus-là.
Alors, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que dans ces caractères qui ont permis de franchir ces obstacles, de s'adapter à des nouveaux milieux et tout ça, la société elle-même, ce n'est pas juste une question de neurones, c'est que nos neurones, ils sont dans un environnement social et notre société, c'est finalement, pour l'espèce humaine, l'atout par rapport y compris à d'autres espèces, qu'on a poussé, disons, très très loin. On ne peut pas juste raisonner sur l'individu, c'est des groupes sociaux qui sont capables de s'entraider, de s'organiser, de former des sociétés complexes, finalement.
C'est des hypothèses qu'on a du mal à tester sur des périodes aussi anciennes que ça. Hein. Il y a 2 millions d'années ou il y a 1,5 million d'années, les restes qu'ont été retrouvés dans les sites archéologiques donnent peu d'informations, mais en tout cas, des informations claires, c'est qu'évidemment, ils vivaient déjà en groupe et que très probablement, l'aspect social de l'homme, avant Homo sapiens, hein, mais déjà Homo erectus, par exemple, le fait de vivre en groupe, probablement avec des systèmes d'entraide, il y a des petites choses qui sont un peu anecdotiques, mais par exemple, à Dmanisi, ce site en Géorgie, là où il y a tout un tas de fossiles qui ont été découverts datés d'1,8 million d'années, Il y a un vieillard, alors vieillard, il devait avoir 35 ans, hein, complètement édenté, il a perdu toutes ses dents de son vivant, sans dents et avant le feu et la cuisson des aliments, ça devait pas être facile pour lui de se nourrir. Donc, une des hypothèses des chercheurs qui travaillent sur ce site, c'est de se dire que probablement il y avait une entraide et que quelqu'un lui préparait sa nourriture. Donc il y a des petites choses comme ça qui permettent de constater qu'effectivement ils vivaient en groupe, mais qu'en plus il devait y avoir une cohésion sociale qui permettait au groupe d'être résistant et d'être fort, une forte cohésion sociale. Oui, c'est probablement un aspect très important du genre homo.
Alors, Dmanisi que tu décris, c'est, si j'ai bien compris, un des sites les plus anciens, donc connu aujourd'hui bien sûr, en dehors d'Afrique. Et en fait, ça, tu dis, c'est 1,8 million d'années, c'est ça l'ancienneté. Et en réalité, on va avoir des sites très rapidement, finalement, on a l'impression que les hommes se retrouvent en Asie du Sud-Est, hein, c'est ça? Enfin, ou en tout cas, on en retrouve, je crois, à Java.
Oui, alors là, encore une fois, il faut faire attention, ce n'est pas aussi simple que certains de nos collègues ont cette tentation de faire, on a un site ici à tel âge, un site ici à tel âge, un site ici à tel âge, donc voilà la progression. Effectivement, 1,8 million d'années à Dmanisi en Géorgie, c'est le plus ancien avec des restes humains connus en dehors d'Afrique. Après, de plus en plus en ce moment, ces dernières années, nos collègues chinois trouvent des sites alors où il n'y a pas de restes humains encore, ou alors quelques petits restes humains, mais très très discutés, on ne sait pas trop si c'est de l'homme ou pas de l'homme. Mais en tout cas, dans ces sites, il y a des outils de pierre taillée, clairement taillée par la main de l'homme, et plusieurs de ces sites datent de plus de 2 millions d'années. Alors, c'est vrai que nos collègues chinois, on veut toujours avoir les plus anciens. Alors là, pour le coup, ils veulent toujours avoir…
Les...
Voilà, c'est pas les seuls, c'est un grand classique. Mais Alors au début, c'était très, tout le monde était très dubitatif, hein, il y a 10, 15, 20 ans, mais c'est vrai que ça se reproduit, il y a de plus en plus de sites et ça paraît de plus en plus solide quand même. Donc, faut se méfier, il y a peut-être des choses déjà bien avant 1,8 million d'années, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer qu'effectivement, par exemple, en Asie du Sud-Est, à Java, alors sur l'île de Java, mais je le précise dès maintenant, qui a de nombreuses reprises pendant tout le quaternaire, cette période pendant laquelle, la période géologique pendant laquelle ont évolué nos ancêtres et dans laquelle on est toujours. L'île de Java n'était pas une île puisqu'il y a eu des fluctuations de climat, glaciaire, interglaciaire, et en période glaciaire, les mers, le niveau de la mer baisse puisque le volume de glace augmente au pôle. C'est de l'eau de mer, hein, qui part dans les glaces au pôle, donc ça s'abaisse. Et les petites mers pelliculaires qu'il y a par exemple en Asie du Sud-Est, qui font à peine 50 mètres de profondeur, se retrouvaient complètement asséchées. Donc les hommes pouvaient passer à pied sec et se retrouver sur l'île de Java. Alors là encore une fois, il y a beaucoup de débats sur les datations de ces fossiles les plus anciens découverts à Java. Et on va dire qu'il y a au moins 1,5 million d'années, peut-être un peu plus, il y avait déjà des hommes, ça c'est sûr, en Asie du Sud-Est insulaire. Donc effectivement, ça fait une progression assez rapide. Mais encore une fois, peut-être pas si rapide s'ils étaient en Chine il y a plus de 2 millions d'années. Il faut toujours, encore une fois, faire bien attention avec les datations des sites et l'idée d'une progression simple de site en site.
Alors ensuite, donc, pour rester un peu sur l'Asie du Sud-Est, qui est quand même ton domaine de prédilection, en réalité, c'est... C'est une région très très riche, hein, de ce que j'ai compris, de ce que tu racontes dans ce que tu as pu présenter par ailleurs. Il y a toute une archéologie, d'abord c'est tout un univers qu'on ignore beaucoup, qui est très très grand en fait, qui va de donc, l'Indonésie à l'Australie, qui remonte presque jusqu'à la Chine, on va dire, au nord, donc les Philippines, Java, etc. Et donc on a fait des découvertes en fait. Ça s'est accéléré, en fait, depuis 20 ans, on va dire. Il y a plein de découvertes qui ont été faites. Je ne sais pas si tu peux nous raconter un petit peu ça. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir tout dire, mais…
Oui, je vais pouvoir en parler pendant des heures, mais pour déjà quelques éléments, comme tu le rappelais, l'Asie du Sud-Est, on va se limiter à l'Asie du Sud-Est insulaire, donc essentiellement Indonésie, Philippines actuelles. C'est un territoire géographique qui est immense en fait. On ne se rend pas compte vu d'ici, oh, c'est des petites îles les unes à côté des autres. En fait, si on superpose, c'est quelque chose que je montre souvent dans mes conférences, si on superpose cette carte de l'Asie du Sud-Est sur le continent nord-américain, par exemple, c'est plus étendu d'est en ouest que le continent nord-américain. Et si on superpose à l'Europe, c'est plus étendu du nord au sud que l'Europe. Donc c'est vraiment des distances considérables, avec de très nombreuses îles, certaines minuscules, mais aussi des îles géantes, hein, Bornéo, Sulawesi, ou l'île des Célèbes, Sumatra sont des très très grosses îles. Et en plus, donc ce que je rappelais juste avant, qui tout au long de sa préhistoire a été marqué par ces oscillations du niveau marin, qui fait que certaines îles comme Sumatra, Bornéo, Java étaient reliés au continent pendant les périodes de bas niveau marin, donc pendant les périodes glaciaires, alors que toutes les petites îles situées plus à l'est, l'Indonésie orientale ou plus au nord pour les Philippines, n'ont jamais été rattachées au continent. Ce qui fait que pour les hommes, mais aussi pour les animaux, ça on le sait depuis très 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 longtemps, parce que c'est une terre de prédilection des paléontologues d'une manière générale, il y a des histoires évolutives très complexes et assez fascinantes, de migration, alors sur les îles quand elles étaient rattachées au continent ou carrément sur les îles qui n'ont jamais été rattachées au continent, donc des périodes de migration, de traversée, les animaux bons nageurs comme les éléphants arrivent à coloniser des petites îles lointaines assez facilement. Et ça, c'est aussi une histoire humaine, donc à partir de 1,5, 1,6 million d'années. Et en fait, ça fait très longtemps que ça s'est réaccéléré ces dernières années. Mais ça fait très très longtemps que des gens étudient la préhistoire de ces régions-là, puisque c'est en 1891 que Gene Dubois a découvert le premier fossile attribué à Homo erectus en Indonésie. Mmh. Pour des raisons historiques, on va dire, puisque Gene Dubois était médecin militaire hollandais et que les Indes néerlandaises, ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, faisait partie de l'empire colonial donc des Pays-Bas. Donc il avait été nommé là-bas et s'est lancé à la poursuite, à la recherche effrénée du fameux chaînon manquant, hein, de cet ancêtre de l'homme que tout le monde cherchait depuis Darwin. Et donc c'est en 1891 qu'il a trouvé les premiers fossiles. Donc c'est pas hier, mais donc l'Indonésie a toujours été une terre de préhistoire. Il y a une grande tradition qui s'est un peu essoufflée ces dernières décennies. Et on va dire qu'à l'inverse, aux Philippines, la préhistoire n'a jamais été une préoccupation des Philippins, encore une fois pour des raisons historiques, hein, qu'on ne va pas développer ici, mais ils ne se sont jamais intéressés à la préhistoire, sauf ces dernières années où, bah, effectivement, quand on trouve des choses anciennes, intéressantes, également aux Philippines, bah, on se rend compte que les Philippines aussi avaient une préhistoire ancienne et que tout ça, ça permet de donner une image très, très... très très complexe, mais très intéressante, de l'histoire de l'arrivée alors de l'homme, des différentes espèces humaines, de migration d'île en île, et d'essayer de reconstituer toutes ces successions d'occupations humaines dans ces territoires qui, contrairement à ce qu'on croyait il y a encore une vingtaine d'années, se limitent pas à d'abord les Homo erectus, puis ensuite plus rien du tout, jusqu'à l'arrivée d'Homo sapiens. Il y a des choses bien plus complexes qui se sont produites dans cette région.
Donc alors, les hommes donc, ont réussi à aller dans des îles dont on est sûr qu'elles n'ont jamais été reliées par un bras de terre au continent. C'est-à-dire qu'ils, dans une période très ancienne, c'est ça, tu vas nous préciser, mais ils ont réussi à faire des bateaux finalement. C'est quand même pas à dos d'éléphant qu'ils sont passés.
Alors ça on n'en sait rien. Alors il y a plusieurs choses. La première qui est importante, c'est que les premières traces de présence humaine très anciennes sur une île qui a toujours été une île, c'est sur l'île de Flores. Ça a été découvert dans les années 1990, des outils de pierre taillée découverts dans des niveaux datés d'au moins 700 000 ans. Alors à l'époque, tout le monde leur avait rigolé au nez en disant « Ah, Homo erectus sur l'île de Flores, c'est pas possible ». Bon, on sait que 15 ans après a été découvert Homo floresiensis, ce tout petit homme très très particulier.
Il faut que tu nous en dises un mot quand même, parce que voilà. On ne connaît pas forcément.
Donc, a été un ensemble de fossiles découverts sur l'île de Flores toujours, mais dans des grottes et dans beaucoup plus récentes, hein, dans des périodes beaucoup plus récentes, aux alentours de 60 000 ans, 100 000 ans, et qui présentent des caractéristiques morphologiques tout à fait surprenantes et tout à fait particulières. Puisque adulte, il mesurait à peine 1,10 m de hauteur, et les proportions corporelles, tout est miniature, y compris la tête, le cerveau d'ailleurs. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le nanisme chez l'homme comme pathologie actuelle. Tout est réduit de façon homogène. Et ce petit homme de Flores, l'explication qui a été donnée, je raccourcis, hein, parce que ça allait encore en parler pendant des heures. L'explication la plus probable, c'est qu'Homo floresiensis, c'est le résultat d'une évolution insulaire qu'on connaît très bien chez les autres mammifères, en particulier les éléphants. On sait que d'une manière générale, les animaux qui arrivent sur une île, au bout de quelques centaines, milliers, dizaines de milliers d'années, il y a des grosses variations de taille qui se produisent, c'est-à-dire qu'en gros, les petits animaux ont tendance à devenir plus gros, et les gros animaux ont tendance à devenir plus petits. Donc, on connaît tous les petits éléphants nains, les petits éléphants pygmées, y compris dans ces îles d'Asie du Sud-Est ou dans les îles de Méditerranée, en Sicile. C'est des choses qui sont très, très, très bien connues. Et on pense qu'Homo floresiensis, finalement, c'est une miniature d'Homo erectus qui s'est produite en on ne sait combien de milliers d'années, mais sous les effets de ces mécanismes évolutifs très particuliers qui se produisent sur les îles. Et donc, ça, c'était la première découverte. Alors, Homo floresiensis, ça a fait beaucoup de débats. Beaucoup de chercheurs n'acceptaient pas cette espèce. Bon, aujourd'hui, c'est à peu près… Tout le monde l'accepte, à peu près. Grande discussion sur… mais comment… Alors, si c'est bien des hommes, Homo floresiensis, et puis même dès 700 000 ans sur l'île de Flores, comment est-ce qu'ils sont arrivés là ? Ils sont sûrement arrivés là par accident, par exemple, quand il y a des tsunamis, des éruptions volcaniques, il y a des gros paquets de végétation qui se baladent d'île en île. Ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on constate aujourd'hui, hein, et qui sont connues historiquement dans cette région-là. Donc, c'est probablement quelques hommes à la dérive sur un paquet de végétation qui sont arrivés sur l'île de Flores. Alors démographiquement, ça pose tout un tas de problèmes parce que c'est pas hyper probable. Il faut, pour fonder une population sur une île, il suffit pas d'un Adam et une Ève. Hein. Il faut plusieurs hommes, plusieurs femmes. Il faut des ressources. Il faut que des arrivées se produisent régulièrement au cours du temps jusqu'à pouvoir fonder une population viable. Mais l'argument qui revenait toujours à cette époque, c'était oui, mais bon, comme il y a que le cas de Flores, c'est probablement accidentel. Et depuis, nous, on a fait nos découvertes aux Philippines, qui montrent des choses très, très parallèles. Et puis, il y a aussi entre les deux, sur l'île de Sulawesi, alors c'est un peu moins ancien, mais il y a des traces d'occupation humaine qui remontent à au moins 300 000 ans. Ce qui fait qu'en Asie du Sud-Est, on a au moins trois grandes îles, Luzon, Sulawesi et Flores, qui ont été colonisées par des hommes bien avant Homo sapiens. Donc, le fait que ça se soit produit trois fois accidentellement, par hasard, indépendamment, les probabilités, elles sont quasiment nulles que ça se soit produit trois fois indépendamment, par hasard, au cours de la préhistoire. Donc, très probablement, ça devait être des traversées volontaires. Alors, volontaires, on met ce qu'on veut derrière. Hein. Moi, je dis toujours que toutes ces îles sont hyper volcaniques. Hein. Et que c'est des choses qu'on constate tous les jours encore aujourd'hui, et que la nuit ça doit faire des beaux feux d'artifice quand même au loin, et l'homme étant curieux, il a dû avoir à un moment ou un autre envie d'y aller, ou au contraire a eu besoin de se sauver de là où il était. Enfin bref, on saura jamais comment ils ont traversé, mais on a peu d'éléments hein, pour tester ça, mais il me semble que l'intentionnalité devait être là, hein, parce que c'est vraiment uniquement par hasard et par accident, ça paraît vraiment trop peu probable. Alors, trop peu probable, après, il reste que c'est vrai que c'est intentionnellement, c'est des bras de mer qui ne sont pas forcément tous très longs, hein, mais qui ne sont pas faciles à traverser. Donc, la question reste ouverte. Comment ils sont arrivés là?
Donc, il y avait déjà une maîtrise, ouais, forcément, de certaines techniques, peut-être de navigation. Enfin.
Alors, navigation, les gens ont souvent en tête, quand on parle de navigation aujourd'hui, ils imaginent Éric Tabarly, non, c'est vrai, clairement pas ça. C'est pas non plus les grands navigateurs polynésiens qui, il y a quelques milliers d'années, ont carrément traversé des étendues d'océans immenses pour coloniser toutes les petites îles du Pacifique, mais à mon avis, il devait y avoir quand même quelque chose d'intentionnel derrière. Et encore une fois, alors par quels moyens on peut penser que si c'est des embarcations, même très très rudimentaires, hein, évidemment, ça se conserve pas. Hein. C'est des matières périssables qu'on retrouve jamais dans les sites archéologiques, sauf situation de préservation exceptionnelle comme les lances là dans ce site allemand. Il y a très très peu d'endroits où le bois se conserve, donc on retrouvera jamais ces embarcations. Donc il faut continuer à imaginer.
Donc le bois ne s'est pas conservé, mais alors quelque part aux Philippines. Un jour, il y en a un qui a laissé un morceau de son pied. Donc, c'est qu'il était passé par là. C'est ça que tu vas nous raconter.
Oui, c'est ça. Ouais. En fait, effectivement, l'année dernière, ça fait un tout petit peu plus d'un an, on a enfin publié les découvertes qu'on avait commencé à faire la toute première, c'était en 2007, puis ensuite la plupart des fossiles en 2011, puis en 2015. Donc, ça nous a pris pas mal de temps à étudier. Écrire et finalement publier ces restes fossiles qu'on pensait être au début les plus anciens Homo sapiens des Philippines, hein. Mais assez vite on s'est rendu compte en faisant toutes nos comparaisons, toutes nos analyses, que les différents éléments qu'on a trouvés, alors ce sont des os des pieds, des os des mains et des dents, sont clairement systématiquement différents de ceux d'Homo sapiens. Et puis on a bien sûr étendu toutes nos comparaisons à toutes les autres espèces connues dans la zone Asie du Sud-Est, mais aussi mondialement, on va dire, pour être sûr de faire aucune erreur. Et il se trouve que, alors chaque petit caractère pris un par un, évidemment, va ressembler à telle ou telle autre espèce qu'on connaît déjà, mais quand on combine tous ces caractères, hein, pour avoir une espèce de fiche d'identité de ces fossiles, il se trouve que ça correspondait à aucune autre espèce déjà connue. Donc, on a décidé de proposer la description d'une nouvelle espèce. Donc, on a appelé Homo luzonensis. Pas très original, puisqu'il a été trouvé sur l'île de Luzon. Ça a été accepté. Ça a été un long travail. Mais ça a été accepté. Donc, on a effectivement cette nouvelle espèce Homo luzonensis sur la grande île de Luzon aux Philippines. qui vivait pour ce qu'on sait pour l'instant des datations qu'on a eues entre, pareil, un peu comme Homo floresiensis, d'ailleurs, c'est assez intéressant, entre 60 et 100 000 ans, probablement un peu plus.
Alors, vous l'avez trouvé dans une grotte qui est un lieu très touristique aux Philippines, c'est ça?
C'est la grotte de Calao. Alors, la grotte de Calao qui se situe au nord de cette grande île de Luzon. La grande île de Luzon, c'est celle où il y a Manille hein, aujourd'hui. Mais là, on est tout au nord, au nord-est, sur les contreforts de la Sierra Madre, les grandes montagnes. Et dans ce massif calcaire, il y a plein de grottes. Et une est particulièrement célèbre, c'est la grotte de Calao, plutôt les grottes de Calao, qui est célèbre parce que c'est assez, c'est même totalement magnifique. C'est un enchaînement de 7 chambres, toutes très très belles, très grandes, avec des stalactites et des stalagmites géantes. Et au milieu, il y a un certain nombre de grottes dont le plafond est complètement effondré, ce qui donne ces grottes avec le plafond ouvert, circulaire, là, et le soleil qui rentre, la végétation qui tombe. Enfin, c'est vraiment un endroit magnifique. Et qui est... alors, il y a aussi le côté mystique sud-est asiatique qui fait que les grottes, c'est toujours des endroits assez particuliers, hein, des choses qui devaient se passer en Europe il y a 20-25 000 ans. Les grottes, c'est toujours des endroits un peu particuliers. Bref, c'est un endroit qui est très beau et qui est très, très fréquenté par les touristes locaux, par les Philippins, à tel point que Marcos en avait fait un lieu fantastique du tourisme philippin. Il avait décidé de faire construire une église, une chapelle dans la deuxième chambre. Bref, il y a des bancs en béton, une sainte vierge dans les stalactites. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un site qui est très très touristique. Les Philippins viennent voir des belles grottes et puis faire une prière dans la chapelle.
C'est un peu comme si tu faisais des fouilles dans la grotte de Lourdes, quoi, en gros.
J'allais dire, il y a un peu de ça, mais c'est même totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est vrai que c'est étonnant à quel point. Donc on y était là, on a fouillé en février-mars, juste avant de se retrouver confinés ici en France et eux là-bas aux Philippines. Et on a constaté, c'était assez sidérant, hein, l'augmentation du nombre de touristes après l'annonce donc de la découverte d'Homo luzonensis. Hein, un an après, il y a une augmentation fulgurante du nombre de touristes qui visitaient la grotte. Donc là, alors c'était carrément, c'était vraiment Lourdes. C'était un afflux continu de touristes, y compris de touristes étrangers d'ailleurs, non philippins. Donc ça. Ça doit se retrouver indiqué dans des guides ou des choses comme ça. Donc effectivement, c'est un site qui a toujours attiré le public, mais là il y a un effet Homo luzonensis qui est assez manifeste.
Et sur le plan scientifique, alors vos fossiles, si j'ai bien compris, ce qui était vraiment une sorte d'énigme, c'est que, et je crois que c'était un peu la même chose sur les fossiles de Flores, j'allais dire l'homme de Flores, en réalité c'est une femme. Bon, quand on dit Homo, oui, quelque chose, hein, il faut... D'accord, que c'est l'espèce, je m'appelle comme ça. Mais donc, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'on avait des caractéristiques, quand tu dis c'est une sorte de patchwork, où on a retrouvé des choses qui ressemblaient à d'autres espèces, mais une combinaison vraiment très originale, et certains de ces traits étaient ce qu'on attribuait d'habitude aux australopithèques, donc à des espèces qui ont vécu il y a vraiment très, très, beaucoup, beaucoup plus longtemps, et qu'on pense toujours, d'ailleurs, je pense, complètement éteintes. Donc, ça c'était un vrai...
Alors, sur l'ensemble des éléments fossiles d'Homo luzonensis, il y a des ensembles de caractéristiques vraiment très très bizarres, au sens où ça n'avait jamais été trouvé jusqu'à maintenant. Et une des choses les plus étonnantes, c'est au niveau des os des pieds. On a tout un tas de caractères, alors que ce soit au niveau du métatarsien ou au niveau des phalanges, des caractères qu'on retrouve. Pour les plus proches de nous, il y a 3 millions d'années en Afrique de l'Est, chez Australopithecus afarensis. Et alors, c'est tout à fait surprenant de les retrouver sur un représentant du genre Homo qui vivait il y a 60 000 ans aux Philippines. On ne peut pas penser que ça a été hérité directement, que Homo luzonensis descend directement d'Australopithecus afarensis. Il manque quelques briques entre les deux, hein, quand même. Mais ce qui est vraiment très, très surprenant, c'est que par rapport à ce qu'on disait tout au début, une des caractéristiques de la lignée humaine, des hominines, c'est la bipédie. Et on pense qu'une des caractéristiques du genre homo, ou en tout cas on le pensait, c'est cette bipédie stricte et voire bipédie d'endurance, course d'endurance. C'est-à-dire que non seulement on se déplace que en bipédie, on ne fait que ça, on ne grimpe plus du tout dans les arbres, et on a cette bipédie, cette marche qui est endurante, c'est-à-dire qu'on peut marcher très très longtemps pour aller très loin. Donc ça pourrait être une des caractéristiques du genre homo. Et ça, c'est pas ce qu'on trouve chez les Australopithèques, notamment. On pense que c'est pas le cas à cause de ces caractères qui restent au niveau des pieds, qui sont des caractères qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve chez les chimpanzés, par exemple, et qui correspondent à un pied préhensile. Donc, un pied préhensile qui est adapté, qui est au grimper dans les arbres. Et tout à coup, on retrouve ces caractères, sur Homo luzonensis, il y a 60 000 ans aux Philippines. Alors, c'est hyper surprenant. On n'a pas encore la solution, puis je pense qu'on ne sera pas prêt de l'avoir, comment ces caractères se retrouvent là il y a 60 000 ans aux Philippines, mais c'est des choses sur lesquelles on continue de travailler, évidemment. Mais c'est tout à fait surprenant. Alors après, il y a ce débat aussi chez les Australopithèques, hein, la présence de ces caractères, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient utilisés biomécaniquement, c'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'on a un pied de grimpeur que forcément on grimpait dans les arbres? Alors ça, c'est une grande question en paléontologie, hein, c'est pas parce qu'on trouve un caractère que forcément il était utilisé. Mais bon, quand même, il y a tout un tas d'indices qui nous laissent penser que cette hypothèse du grimper est très probable chez Homo luzonensis. Alors c'est très surprenant. On va travailler sur les aspects biomécaniques et essayer de comprendre comment fonctionnait ce pied d'Homo luzonensis. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. On ne sait pas s'il grimpait. On ne sait pas encore, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il devait probablement être assez mauvais bipède. Parce qu'avec un pied comme ça, c'est pas un pied qui est stable au sol. Donc la bipédie d'endurance chez Homo luzonensis, je suis pas sûr que c'était vraiment le cas. Mais voilà, ça ouvre tout un tas de questionnements et de pistes de recherche qui sont assez fascinantes et qu'on soupçonnait pas forcément avant ces découvertes.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez encore du boulot. Il y a pas de problème de ce côté-là, et par ailleurs, ça confirme quand même cette évolution particulière dans les îles, que l'espèce humaine ou nos cousins proches, on va dire, on est aussi soumis aux lois de l'évolution, et comme les autres animaux, et donc on le savait, hein, mais c'est une illustration de ça quand même.
C'est vrai que ça fait toujours du bien de le rappeler et de montrer encore un autre exemple. On est une espèce qui évolue, un ensemble d'espèces qui évoluent dans le genre homo, évidemment. Et puis, comme tu le disais, ce qui est super important aussi, c'est que ça permet de rappeler que il y a 60 000 ans, donc on va dire hier, hein, ou avant-hier, par rapport à la longueur du temps de l'évolution des hominines, contemporains de nous, Homo sapiens, il y avait au moins 5 voire 6 espèces différentes qui se baladaient dans différentes régions du monde, et que c'est uniquement la période actuelle où il n'y a que nous, Homo sapiens, on est la seule espèce humaine qui vit sur Terre, qui est un peu une aberration, c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de l'évolution des hominines, donc c'est important à rappeler aussi.
Oui, puis c'est des découvertes finalement relativement récentes, finalement, tout ça, de réaliser à quel point c'est une sorte de buisson, notre famille, enfin je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais ça revient un peu à ça, une sorte de...
Oui. Pendant longtemps, on connaissait ce phénomène, mais on pensait qu'il était, on va dire, limité à l'Afrique et aux périodes anciennes. C'est-à-dire qu'on savait bien que Homo habilis avait vécu en même temps que Paranthropus boisei, par exemple. Les Australopithèques avaient côtoyé aussi les premiers représentants du genre Homo, mais on pensait que c'était de l'histoire ancienne et que c'était limité à l'Afrique dans des niches écologiques très très variées. Mais en fait, ça s'est produit, ça a continué tout le temps. Y compris jusqu'à ces périodes, encore une fois, relativement récentes de la préhistoire. Et nous, Homo sapiens, ou en tout cas nos aïeuls de notre propre espèce, ont rencontré d'autres hommes. On a du mal à imaginer aussi ce que ça peut faire, hein, mais voilà, il y avait d'autres espèces, et il n'y en avait pas que deux. Hein. Pendant longtemps, on pensait que c'était une histoire qui se limitait à Homo sapiens et Néandertal. Non, il y avait plusieurs espèces. Floresiensis, Luzonensis, les mystérieux Denisoviens qui vivaient en même temps qu'Homo sapiens sur la planète.
Alors, une des pistes pour en savoir plus, c'est d'utiliser évidemment toutes les techniques les plus modernes, parce que c'est vrai que dans les choses, on dit ça, on ne le saura jamais, puis des fois, on trouve une technique qui nous permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, peut-être que Antoine, tu as des choses à nous raconter là-dessus. Alors, on pourrait parler de la génétique, bien sûr, qui a apporté pas mal de choses pour y compris confirmer ce côté buissonnant avec des transferts de gènes entre Néandertal, nous, etc. Mais Antoine, je crois que toi, tu travailles sur autre chose. Tu travailles sur l'analyse de notre cerveau avec des outils vraiment extraordinaires, quoi, très novateurs.
Oui, moi, c'est vraiment l'idée d'utiliser l'imagerie pour aller détailler tout un ensemble de caractères. Et par exemple, c'est vrai que ça se prête bien au cerveau. Et c'est un bon exemple. Le cerveau, c'est un organe extrêmement mystérieux, très complexe. On a fait des progrès depuis quelques dizaines d'années en compréhension du cerveau gigantesque. Et pourtant, on n'en est qu'à la surface, si je peux dire, tellement le cerveau est quelque chose de très, très compliqué. Et pour les hommes fossiles, alors évidemment, on ne retrouve pas de fossiles du cerveau. C'est des tissus mous, ils ne se conservent pas. Mais par chance, la forme du cerveau, le cerveau, se développe en même temps que l'os et s'imprime contre l'os. Le développement des deux est assez lié, ce qui fait que le cerveau va laisser des empreintes sur la surface interne du crâne. Et à partir de ces empreintes, on va pouvoir retracer la forme globale du cerveau. Mais c'est pas juste une simple enveloppe, c'est pas une forme comme serait un ballon, quelque chose qu'on gonflerait à l'intérieur d'une boîte. C'est vraiment un ensemble de détails assez précis parce qu'on arrive à identifier les grandes zones cérébrales, on arrive à voir la position des lobes frontaux, pariétaux, occipitaux, et puis même des zones fonctionnelles, des zones comme celle du langage, certains petits caractères vraiment très fins qu'on arrive à identifier sur un cerveau actuel, on arrive à voir pas son détail fonctionnel, mais au moins sa forme anatomique sur des spécimens fossiles. Alors ça, c'est vraiment un apport important parce que grâce à l'imagerie, on va pouvoir le voir à une meilleure résolution qu'avant. Quand on avait un spécimen fossile très complet, c'était impossible d'atteindre l'intérieur et de mouler la forme du cerveau. On n'allait pas casser un crâne complet pour essayer de voir ce qu'il y avait dedans. Ça aurait été un non-sens. Donc là, grâce à l'imagerie, on a vraiment des modèles virtuels qui sont très fiables, très précis, qui sont plus nombreux aussi parce qu'on va pouvoir étudier plus de fossiles. Et puis, on bénéficie aussi des nombreuses découvertes faites depuis 30 ou 40 ans. On a trouvé énormément de fossiles, plein de nouvelles espèces un petit peu partout. Donc forcément, ça permet d'avoir une documentation plus importante, d'étudier plus de fossiles. Et pour le cerveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un résultat qui est en lien aussi avec ce que disait Florent pour le reste du corps, c'est que plus on détaille de spécimens et plus on va regarder de choses, plus on va se rendre compte que c'est compliqué, que les choses ne sont pas simples, qu'il n'y a pas une forme pour une espèce, une autre forme pour une espèce et qu'il va y avoir des patchworks de caractères que d'ailleurs, quand on regarde une espèce au cours du temps, elle peut se transformer un petit peu. Homo sapiens, c'est 200 à 300 000 ans d'histoire. Néandertal, c'est 400, 500 000 ans de durée de vie. Et donc, dans ces périodes-là, et puis des distributions géographiques importantes. Donc, on va avoir des diversités au sein des espèces, au sein de l'espace, au cours du temps. Et puis, entre les espèces, des choses qui vont être plus ou moins semblables. Et pour le cerveau, ce qui a été assez notable, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de variations. La grande idée, c'est la taille qui change au cours du temps et c'est le principal moteur, le principal changement. Et puis, le cerveau d'Homo sapiens, il a ses particularités et puis il est asymétrique et c'est ce qui explique toutes nos capacités. Et en étudiant plus de fossiles, on s'est rendu compte que en fonction des espèces, il y avait une structure du cerveau qui était différente. Il y avait des variations de proportion des différentes zones du cerveau au-delà des variations de taille. Et que, par exemple, les asymétries cérébrales qu'on pensait propres à Homo sapiens, beaucoup se retrouvent chez les autres espèces. Et c'est intéressant parce que ça donne une perspective un peu différente dans l'étude biologique, mais que aussi on peut recontextualiser ça dans plein d'autres travaux. Un bon exemple, c'est la discussion autour du langage. Alors, c'est une discussion sans fin. Il y a encore plein de chercheurs qui sont persuadés que les autres espèces humaines ne parlaient pas, puisque par principe, ils considèrent que le langage n'est propre qu'à nous. Donc forcément, si on part de ce principe-là, quoi qu'on puisse étudier et trouver, on aura l'impression que les autres ne parlent pas. Mais typiquement, les progrès en imagerie cérébrale sur le vivant ont permis de montrer que chez les singes, il y avait des zones anatomiques et des asymétries liées au langage chez nous qu'on pensait propres à Homo sapiens, mais qui se retrouvent chez les grands singes, pas forcément exactement la même forme, la même asymétrie, mais on les retrouve quand même. En fait, beaucoup des petites choses qu'on pensait vraiment uniques à Homo sapiens, on les retrouve par ailleurs. Les études aussi de comportement sur le langage ont montré que chez les grands singes, il y avait une communication gestuelle, verbale aussi, sonore, hein, très importante, une diversité importante, et que ça avait une corrélation assez nette entre cette communication gestuelle et les asymétries cérébrales. Et ce qui est amusant, c'est qu'une partie des asymétries qui sont liées à notre latéralité manuelle, le fait d'être droitier ou gaucher, sont aussi des asymétries qui sont liées à, au langage, parce que le langage a une position asymétrique dans le cerveau, et que quand on parle, encore plus quand on parle avec les mains, on fait fonctionner ces zones-là, et que les grands singes font fonctionner les mêmes zones quand ils communiquent avec leurs mains. Et justement, ça c'est ce qu'on étudie sur l'actuel, et quand on compare avec le fossile, on se rend compte que ces asymétries cérébrales elles sont aussi présentes chez les hommes fossiles, pas de la même manière, etc., mais présentes aussi. Et ce que ça montre, ça montre la complexité de l'évolution. Et ça brise complètement l'image qu'on a de quelque chose de linéaire qui aboutit à quelque chose d'unique, d'exceptionnel, une finalité qui serait nous, et qu'en fait, on n'est pas une finalité, on est juste un résultat parmi d'autres. Et que les résultats à côté de nous, quand on les étudie dans le détail, ils sont aussi viables, aussi pointus que nous, mais ils sont juste un résultat complètement différent lié à des hasards biologiques, des choix évolutifs complètement différents. Et que finalement, Homo sapiens, c'est une humanité biologique avec certaines caractéristiques qu'on pensait être des avantages extrêmes et qui finalement sont juste une réponse biologique, que les Néandertaliens ou d'autres étaient aussi des réponses biologiques différentes. Et le petit lien qui est amusant aussi avec le cerveau, c'est qu'on se rend compte que la chose est vraie quand on aborde ce qui est lié au comportement des hommes fossiles. Longtemps, on a imaginé Homo sapiens comme le résultat ultime qui a été capable de faire beaucoup plus que les autres. Et maintenant, on se rend compte qu'au cours du temps, il y a eu des périodes avec plein d'espèces humaines et des comportements complexes qui étaient présents chez plusieurs espèces. J'allais dire partagés et finalement, je tombais à nouveau dans le piège, que les différentes espèces humaines ont eu des comportements variés, divers, et qu'on jugeait avant comme complexes et forcément propres à nous. Et ça montre en fait que ce qui nous fait nous, c'est un ensemble de traits biologiques, un cerveau qui est particulier, qui nous permet de faire des choses, mais que plein d'autres espèces humaines, avec des réponses différentes, ont aussi eu une anatomie fonctionnelle et puis des comportements différents. Et que finalement, ça relativise beaucoup cette image qu'on a de nous, espèces toutes puissantes et capables d'énormément de choses, et que d'autres humanités ont eu des capacités très importantes aussi.
Mais alors, tout ce que tu dis, je comprends, je le partage. En fait, c'est que ça a fait descendre l'humanité, on va dire, de son piédestal, en nous en comprenant tout ce que tu racontes. Mais pour prendre un petit peu le point de vue opposé, il y a quand même, parce que tu dis, on retrouve des choses qui sont communes, en réalité qui ne sont pas le propre de l'homme. Mais il peut y avoir aussi une question de degré malgré tout, parce que par rapport à ce qu'on discutait avec Florent tout à l'heure sur le fait qu'on est une espèce sociale, je sais bien qu'on partage aussi avec les chimpanzés, avec toutes ces espèces justement, ce rôle de la société. Mais il y a quand même une particularité, il me semble, si par exemple aujourd'hui on compare avec les chimpanzés, c'est que le cerveau du bébé humain, il est quand même particulièrement peu terminé à la naissance. C'est-à-dire que quel est le pourcentage de rien qu'en masse, ça se voit du cerveau, mais y compris le nombre de connexions se font en fait après la naissance. Et ça nous a donné un outil, il me semble, énorme pour justement s'adapter par la société, pas par un miracle comme ça, mais. Et est-ce qu'on a, j'ai du coup une question, enfin je te laisse réagir, mais est-ce qu'on a des indications à partir de toutes les techniques que tu utilises sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur ces différentes espèces fossiles y compris, à quel point le bébé naissait prématuré, c'est-à-dire capable d'apprentissage. Est-ce que ça c'est vraiment notre espèce Homo sapiens qui l'a poussé le plus? Enfin, voilà, si tu as des infos là-dessus.
Alors, il y en a quelques-unes, mais ça reste des infos parcellaires, parce qu'évidemment, on n'a pas des individus de tous les âges. C'est presque pas vrai d'ailleurs pour Néandertal, parce qu'on a beaucoup de fossiles, dont des enfants qui sont probablement des fœtus, des nouveau-nés morts de suite ou autour de l'accouchement. Enfin bon, et des enfants de plein d'âges différents. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une certaine vision de la croissance. La limite de ça, c'est que cette particularité de notre cerveau, cette capacité qu'a le cerveau à grandir beaucoup, c'est un facteur biologique. C'est quelque chose de biologique au départ. Et il est probable que Néandertal avait aussi un développement du cerveau très important. Le problème, c'est aussi une question de comparaison. C'est que par rapport à un chimpanzé, indéniablement, Néandertal est beaucoup plus proche que nous sur sa capacité de développement cérébral durant son développement en tant que jeune enfant. C'est peut-être pas la même quantité que nous, mais peut-être que justement une partie est liée à notre biologie un petit peu particulière. Et Néandertal avait un développement du cerveau important. La difficulté, c'est de saisir le gain réel que ça a en termes de capacité, et je dis capacité entre guillemets, parce que ce qui est sous-entendu dans ta question, c'est l'image qu'on a en général qui est que l'homme est particulier parce que son cerveau va grandir longtemps, que ses parents vont lui enseigner beaucoup de choses et que ça va permettre de faire qu'il soit plus intelligent, qu'on s'imagine plus intelligent que le reste des êtres vivants. La difficulté de ça, c'est que c'est une vision très anthropocentrée. C'est indéniable, nous sommes la seule espèce vivante à étudier les autres ou à réfléchir sur notre propre espèce. Bon, peut-être qu'en cherchant, on trouvera d'autres animaux qui s'intéressent aux autres, des animaux qui utilisent les autres, qui font l'agriculture en quelque sorte, ça existe, les fourmis avec les pucerons, enfin, on peut trouver plein d'exemples. Des vies en société complexe, on en connaît, des fourmis, les abeilles, c'est quand même des modes, avec des cerveaux pourtant tout petits, des modes de vie sociale extrêmement complexes. Donc, c'est vraiment difficile de définir cet aspect-là. Et en fait, sur l'aspect culturel cognitif, j'ai pas de réponse. Sur l'aspect biologique, je pense que Néandertal partage beaucoup de caractéristiques que nous avons, un développement prolongé, avec probablement là un enseignement aussi qui est important et qui dure longtemps. Là, on dépasse le biologique. Et en fait, moi, j'ai une image par rapport à ça, c'est que là encore, notre vision, elle est basée sur nos connaissances aujourd'hui et nos capacités aujourd'hui et l'image qu'on se fait de nos capacités. Quand on regarde les peuplements humains d'il y a 50 000 ans et ce qu'on retrouve comme objet fait par les hommes d'il y a 50 000 ans, qu'on compare Homo sapiens et Néandertal, que d'un point de vue biologique, l'Homo sapiens d'il y a 50 000 ans, il n'est pas différent de moi. Il est probable que son cerveau avait une structure très similaire. On a déjà étudié ça, son cerveau il avait une structure assez similaire. Et il devait avoir des capacités qui étaient relativement les mêmes que nous. En fait, moi, j'aurais plutôt tendance à imaginer qu'un homme d'aujourd'hui a les mêmes capacités intellectuelles qu'un Homo sapiens d'il y a 50 000 ans, que ça devait être du même ordre que celle d'un néandertalien. Et donc, on avait des mêmes, individuellement, la même capacité de réflexion. Et que ce qui nous définit, nous, aujourd'hui, est vraiment la chose qui a transformé notre humanité. C'est pas une augmentation de notre intelligence individuelle. Je suis convaincu que ça n'a pas changé. Mais qu'on a créé quelque chose d'incroyable, c'est l'enregistrement de l'information. L'écriture et tout ce qui a suivi l'écriture et combien on peut stocker l'information. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, à l'échelle individuelle, moi, on me demanderait de faire un ordinateur, de communiquer sur Internet ou de faire un hamburger, j'en serais incapable. Je ne serais pas capable d'élever la vache, de produire le pain, de tout préparer pour faire un hamburger ou de fabriquer un ordinateur. Je suis capable de l'utiliser, mais je ne serais pas capable de faire tout ça. En fait, c'est le cumul de l'information qui nous fait croire que nous sommes individuellement extrêmement forts. Et dans mon esprit, en tant que chercheur, j'aurais tendance à imaginer que ça fait très longtemps que les hommes ont des capacités individuelles qui sont globalement du même ordre, hein, mais que ce qu'on a, nous, su faire, c'est créer ce stockage d'informations qui nous a permis de créer des sociétés bien plus complexes et bien plus abouties, peut-être, dans tout ce qu'on est capable de faire que les hommes d'avant, mais sans être plus forts qu'eux individuellement.
Oui. Tu voulais réagir peut-être, Florent, non ? Ah, le micro.
J'avais coupé mon micro pour pas perturber. Réagir, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que le plus important, ça va aussi dans le sens de ce que disait Antoine, mais peut-être pour mettre une petite nuance. Sur les outils, par exemple, pendant longtemps, on a pensé que l'outil était le propre de l'homme, donc au sens genre homo, et on sait que on s'est rendu compte que les chimpanzés savaient fabriquer des outils au sens outil, c'est-à-dire un objet modifié pour l'adapter à un besoin propre. On sait maintenant que les plus vieux outils datent de 3,3 millions d'années au Kenya et que c'est bien avant les plus anciens fossiles attribués au genre homo qu'on connaisse. Il reste quelque chose d'intéressant. C'est pas parce qu'on a dit l'outil n'est pas le propre de l'homme qu'il n'y a pas des spécificités ou des particularités qui font qu'un outil d'homme n'est pas la même chose qu'un outil de chimpanzé. Mmh. Et sans vouloir différencier absolument l'homme de l'animal, puisque l'homme est un animal, c'est quand même là qu'il y a des choses intéressantes à chercher maintenant. Parce que si on s'arrête au fait de dire bon, il n'y a pas que l'homme qui fait des outils, point. On n'avance pas. Par contre, pour le préhistorien, c'est un vrai challenge de comprendre en quoi un outil d'homme est différent. Alors peut-être qu'il n'est pas différent période très très ancienne, mais ça peut être, ce sont des pistes intéressantes que de s'intéresser à ces différences.
Mais quand c'est un outil comme ça, quand même, ça commence à être un peu différent déjà.
Oui, mais ça rejoint ce que disait Antoine, l'aspect cumulatif. Alors après, pour rejoindre le parallèle que je faisais avec l'outil, c'est vrai que est-ce que Homo sapiens se distingue ou pas, par exemple, de Néandertal, qui est extrêmement proche biologiquement de nous, qui était extrêmement proche de nous. Il reste tout ce débat lié à cette discussion de donner naissance à des grands prématurés au sens biologique et cognitif comme on le fait chez Homo sapiens. Est-ce que c'était le cas aussi chez Néandertal ou pas? Il y a tout un tas de débats qui rejoint ce dont on discutait auparavant sur la bipédie, c'est ce qu'on appelle le paradoxe obstétrical. C'est-à-dire que pour Homo sapiens, on a un bassin qui s'est transformé et qui est extrêmement bien adapté à la bipédie. Sauf que quand on a un bassin extrêmement bien adapté à la bipédie, il est extrêmement mal adapté au fait de donner naissance et de laisser passer la tête d'un bébé à travers ce bassin. Ce qui fait que Homo sapiens ayant un trop gros cerveau, on est obligé de donner naissance à des grands prématurés pour que le bébé ait encore une chance de pouvoir passer dans ce bassin. Enfin, bref, tout ça, ce sont ces discussions. Et savoir si c'était déjà le cas chez Néandertal, comme le disait Antoine, on a pourtant plein de fossiles, mais la question n'est pas encore tranchée. Pour certains de nos collègues, Néandertal donnait naissance à des moins grands prématurés qu'on ne le fait chez nous, Homo sapiens. Et alors après, évidemment, derrière, il y a toutes les discussions sur très grands prématurés, donc il faut s'en occuper beaucoup plus longtemps. Donc, phase d'apprentissage extrêmement allongée. Ensuite, il y a l'hypothèse de la grand-mère qui se rajoute là-dessus, c'est-à-dire que c'est la grand-mère qui s'occupe des enfants qui n'ont pas fini de grandir. Donc, ça participe à la cohésion sociale du groupe et à la transmission d'informations avec des sauts de génération, donc une transmission hyper efficace. Tout ça, c'est encore une fois en discussion, c'est passionnant. Mais on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment propre à nous, Homo sapiens, ou si c'est partagé déjà, c'était déjà le fait d'autres espèces. Mais encore une fois, faut pas essayer de mettre toujours Homo sapiens à part, mais c'est aussi intéressant d'essayer de comprendre si vraiment il y a des choses qui nous différencient des autres espèces ou pas. Ça rejoint cette histoire de complexité depuis tout à l'heure avec Antoine, on n'arrête pas de dire c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait auparavant. C'est le cas, mais c'est beaucoup plus intéressant, surtout. Faut faire attention. Les gens souvent nous disent « Ah oui, c'est complexe, c'est-à-dire que vous comprenez plus rien. En fait, tout ce qu'on pensait savoir, faut le jeter à la poubelle. » Non, c'est pas du tout ça. On en sait beaucoup plus. À chaque découverte, on en sait plus. Et à chaque nouvelle découverte, on se pose des questions qu'on n'aurait même pas eu l'idée de se poser il y a encore 10 ans. Donc, on en sait de plus en plus, mais tout ça nous donne une image qui est évidemment complexe, parce que je vois pas pourquoi l'évolution de l'homme n'aurait pas été complexe. L'évolution, c'est quelque chose de très complexe. Mais c'est pas parce qu'on dit que c'est complexe qu'on dit on n'y comprend plus rien et c'est incompréhensible. Pas du tout, au contraire.
Je suis vraiment content de dire ça parce que c'est des discussions qu'on a en permanence et qui en fait sont au cœur de la démarche scientifique. Je pense que c'est pareil en astrophysique avec la matière noire, etc. C'est-à-dire que avec la science, quand tu résous une question, tu as deux autres questions qui apparaissent. C'est la différence d'ailleurs avec la religion qui, elle, a toutes les réponses dès le départ. Mais c'est vrai que du coup, il y a cette idée, oui, mais alors du coup, vous n'y comprenez plus rien.
Et ce n'est pas facile, parce qu'effectivement, plus ça devient
complexe, touffu, plus les gens sont un peu perdus. Donc,
avant, on croyait qu'il y avait des trucs, c'était simple. Maintenant, vous nous dites des trucs.
Donc, il faut faire attention, je pense, effectivement, quand on vulgarise, quand on s'adresse au grand public, de bien redire ce que tu as dit là,
que je partage à 100%.
Mmh. Alors, en fait,
je vois que le temps tourne.
Il faudra vraiment que vous reveniez. Donc, cette année, on ne peut pas faire
la fête de lutte
ouvrière pour cause de l'épidémie, évidemment, mais il faudra que vous reveniez. Il y a plein de choses.
J'imagine que l'année prochaine, il y aura encore des tas d'autres choses.
Alors, peut-être. Enfin, si vous avez peut-être des choses à rajouter là, mais on pourrait peut-être terminer pour
vous nous racontiez un peu quelques trucs sur
comment ça se passe. Alors, j'imagine, surtout pour Florent, qui est quand même
toujours souvent sur le terrain.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est paléo-anthropologue
confiné, quoi ?
Ça doit être très dur.
Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse pousser la barbe. Non, plus sérieusement. Alors déjà, j'allais dire malheureusement, mais je suis pas toujours sur le terrain. J'essaye d'y aller au moins une fois par an, deux fois par an, mais je suis pas toujours sur le terrain parce que c'est super le terrain. On découvre des choses, mais après, il faut quand même prendre le temps de les étudier, de les publier, ces choses qu'on découvre. Voilà, il se trouve qu'effectivement, on a eu une chance incroyable parce qu'on avait prévu depuis assez longtemps de faire les fouilles en février-mars. Et on a réussi à faire la mission entière et de rentrer juste à temps et de se retrouver confiné. Alors ça, on a eu de la chance. Après, le plus difficile, c'est d'être coupé des collections, j'allais dire, parce que non seulement là, pour les collections, pour le matériel qu'on a trouvé pendant la fouille, moi, j'aurais bien aimé qu'on revérifie scrupuleusement tout le matériel pour être sûr qu'on n'ait pas laissé passer deux, trois petits bouts d'os ou dedans qu'on n'a pas identifié au moment de la fouille. Ben, ça, évidemment, on n'a pas pu le faire au retour de mission. Et voilà, les collections, les fossiles dorment dans des caisses et il va se passer encore un petit peu de temps avant que mes collègues philippins puissent reprendre ce travail. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est les collections... notre matériel d'étude, quoi, les collections de référence pour les comparaisons, tout ça, c'est évidemment inaccessible quand on est à la maison en télétravail. Alors après, on n'est pas désœuvré, hein, on a été pas mal occupé par les enseignements qu'il a fallu réinventer à la dernière minute en enseignement à distance, ce qui a été assez stimulant par ailleurs, hein, et on a eu des expériences assez amusantes, y compris des choses qui marchent pas du tout, mais... C'est assez intéressant pour d'autres choses qui donnent des idées éventuellement, alors pas pour tout transformer en ligne, hein, bien sûr que non, mais de choses qu'on peut adapter et qu'on peut réutiliser en cours présentiel normal, j'allais dire. Donc ça nous a pas mal occupé. Et puis après, on peut prendre du temps pour lire des articles, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien, lire des choses qu'on n'avait pas eu le temps de lire ou se tenir un peu plus au fait de l'actualité scientifique, réfléchir à des sujets, des projets de recherche. Voilà, on a un peu plus le confort de le faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps bousculé pour aller d'une réunion à l'autre ou d'un cours à l'autre. De ce côté-là, de travailler à la maison... peut-être bénéfique de ce point de vue-là, mais après, c'est vrai que c'est... On n'aura pas que ça dure trop, trop longtemps quand même.
Et toi, Antoine ?
Moi, ça a eu un impact assez important. Ça a rendu plus difficile la gestion des choses administratives communes, gestion d'équipe et tout, parce que c'est vrai que ça demande du temps après pour revoir les gens avec qui on travaille, au sein d'une équipe, suivre leur activité. Donc, ça implique plus d'échanges presque en visio que le temps qu'on pouvait y consacrer en présence, finalement. Donc, le lien est un peu difficile à maintenir. Ça, c'est une certitude. Par contre, étrangement, moi, ça m'a libéré aussi du temps pour faire de la science. Et finalement, en étant connecté à distance à mon ordinateur au Musée de l'Homme, j'ai pu faire plein de recherches, travailler sur mes petits crânes virtuels, regarder des choses que j'avais pas eu le temps de faire auparavant et finalement mener un travail scientifique tout en étant chez moi, tranquillement, et arriver à étudier plein de fossiles qui viennent un petit peu partout. C'est un des petits avantages d'utiliser ces données d'imagerie.
Oui, parce que finalement, tes techniques sont tellement précises qu'en fait, tu as fabriqué des fossiles virtuels qui ouvrent tout un champ de recherche. C'est ça, c'est-à-dire que maintenant, on peut les découper, on peut faire ce qu'on veut sans que personne ne vous en mette, parce que tu as le modèle en fait dans ton ordinateur.
C'est ça, j'ai une réplique presque à l'identique, précise de mon spécimen fossile. Alors, c'est jamais totalement précis. Et en fait, il y a toujours une limite à la science, c'est la manière dont on mesure les choses. C'est pas parce qu'on a des données à très haute résolution que ce qu'on va faire après va être extrêmement juste. C'est pas un garant par soi-même. Donc, il faut faire des protocoles précis, vérifier qu'ils fonctionnent, comparer, remesurer, etc. pour être sûr que ça marche. Mais c'est un avantage important et intéressant, c'est que ça multiplie le nombre d'informations qu'on va pouvoir observer parce qu'on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur et que ça permet de le faire de n'importe où, depuis même chez soi. Bon, forcément, c'est pas mon petit ordinateur portable qui fait les calculs parce que il tiendrait pas. C'est mon gros ordinateur au Musée de l'Homme, mais j'arrive à le faire de chez moi. Donc, c'est la petite magie des progrès technologiques qu'on a pu avoir ces derniers temps.
Que notre espèce a quand même pu réaliser malgré tout.
Oui. Mais alors, je n'ai pu le faire que grâce à la collaboration de l'informaticien qui m'a connecté mon ordinateur au bureau. Sans lui, je n'aurais pas pu le faire.
Je voulais signaler au passage que tu as fait un petit bouquin qui est très grand public, qui s'appelle Homo sapiens, tout simplement, hein. Qui est en fait une idée faite avec le dessinateur Pierre Bailly.
Bailly, je crois.
Hein, qui est donc dans la BDTech des savoirs, je crois, hein. Donc, qui survole un petit peu toute cette la problématique de nos ancêtres.
Ouais, l'idée, c'était de raconter Homo sapiens. Et c'est vrai que le format BD permet d'aborder des choses différemment, de conter l'histoire différemment. Et Pierre Bailly, alors en général, les adultes ne le connaissent pas. C'est le dessinateur qui fait une BD qui s'appelle Petit Poilu. Les Petits Poilus, c'est une BD pour les tout petits enfants, moins de 6 ans, parce que c'est une BD sans texte. Et c'est vrai que quand on pense à ce genre de… Enfin, ça paraît étrange, une BD sans texte. Et en fait, Pierre a une capacité de narration par le dessin qui est extraordinaire. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette collaboration-là, c'est que quand on m'a proposé ça et d'écrire un scénario de BD, je ne savais pas faire. Un scénario de BD, c'est quand même un métier. Il y a des mecs qui font ça et très, très bien. Et donc, ça a été un échange avec lui d'arriver à raconter une histoire qui soit vivante dans l'écriture. Et quand lui, il l'a mis en image, c'était extraordinaire parce que j'avais l'impression de voir quelque chose de visuel qui bouge. Et c'était agréable et ça a permis de faire passer un message un petit peu différemment, ce format BD.
Oui, c'est très bien. Bon, bah, écoutez, peut-être que… Je vais vous laisser vaquer à vos occupations.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup de nous avoir contactés et pour cet échange à distance.
Mais je savais que vous auriez des tas de trucs à raconter, mais on se reverra.
J'espère bien, oui.
À bientôt, oui.
À bientôt.
À bientôt.